bienvenue sur Ne venez plus, le podcast de la déconstruction. Et aujourd'hui, nous allons avoir un nouveau format. Ce ne sera pas comme d'habitude où c'est un débat entre différentes personnes. Cette fois-ci, ça sera une discussion en tête à tête. Je vous laisse écouter, faites-vous plaisir. On se revoit à la fin. Alors, chez toi, il est midi, je pense. Donc, ça veut dire que c'est peut-être l'heure du repas et tout. Donc, je te dis déjà bon appétit. Et normalement, le podcast s'appelle Ne venez plus, mais toi, tu as voulu revenir. Donc, on est là pour avoir une petite conversation. Mais avant ça, on va se présenter mutuellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Gloire Wanief, romancier congolais résident au Sénégal, activiste pro-féministe.
Salut tout le monde, moi c'est Yasmine Kamara, ivoirienne, résidente aux États-Unis. Je bosse en tant qu'auditrice des systèmes d'information, mais en temps libre, je suis féministe et je m'intéresse beaucoup à la culture africaine.
Alors, contrairement aux autres fois, aujourd'hui nous allons plutôt faire une conversation, un tête-à-tête entre Yasmine et moi. Et la thématique de notre discussion sera la masculinité. Voilà, on va prendre ça et puis on va essayer de décortiquer, de tirer à gauche à droite un peu comment ça se passe. Et pour ce faire, je te laisse l'honneur de diriger un peu cette conversation. Les questions que tu as posées, moi aussi je vais te poser un peu des questions pour qu'on essaie ensemble de comprendre de quoi il s'agit. Voilà.
Et oui, la masculinité. C'est un sujet qui m'intéresse depuis assez longtemps. Ça me fait énormément plaisir qu'on a pu finalement caler ce rendez-vous pour mieux discuter. Donc, sur ce, on va commencer. Bon, ma première question, vraiment, c'est de définir la masculinité. Selon toi, c'est quoi la masculinité?
Selon ma compréhension de la masculinité, je dirais que c'est l'ensemble des caractéristiques physiques et moraux que l'on attribue à l'homme. Beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus les caractéristiques morales, voilà, comportementales, que les caractéristiques physiques. Donc, c'est beaucoup plus dans le sens du comportement qu'un homme doit avoir, de la manière qu'un homme doit se comporter, de comment il doit être psychiquement. Et c'est ce qu'on lui attribue. Voilà, je précise bien le mot attribué dans ma compréhension de ce qu'est la masculinité. Voilà.
J'aime bien comment tu as accentué sur le fait que ce sont des caractéristiques qui sont attribuées. En effet, il n'y a pas de définition universelle de ce que c'est un homme, de la masculinité, comme on le dirait, parce que, comme tu le dis, c'est des caractéristiques attribuées et ça varie en fonction de ton environnement, de ta culture, de ton pays, de ton continent et tout. Donc, un homme en Afrique, en Côte d'Ivoire, est défini selon certains critères et un homme dans un autre pays, disons en Amérique du Nord, sera défini par d'autres critères. C'est fort probable qu'il y aura des similarités, mais il y aura aussi beaucoup de différences.
Ouais, c'est tout à fait ça. C'est fonction de là où on est, là où on vit. Les facteurs socioculturels ont une grande influence sur la manière qu'on va définir l'homme, la manière qu'on va le comprendre, qu'on va le considérer. Et ça varie d'un endroit à un autre, comme tu l'as si bien dit. Et je pense que c'est dans une certaine mesure, hein, je trouve pas que ce soit problématique que l'on ait une définition, qu'on essaie de donner une définition à ce qu'est un homme, à ce qu'est la masculinité. Je ne pense pas que ce soit problématique parce que les choses, il faut bien les définir et on définit en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on connaît. À ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. De mon point de vue, il n'y a pas de problème au niveau de la manière contextuelle qu'on va définir l'homme.
Ok, donc pour nos auditeurs et nos auditrices, est-ce que tu peux nous donner des exemples de caractéristiques que ta culture ou ton pays, tu es originaire du Congo, voilà, quelques caractéristiques qui définissent un homme?
Alors, en termes de caractéristiques attribuées à l'homme, nous avons, chez moi, hein, nous avons déjà la force. Voilà, un homme doit être fort mentalement, physiquement. Il y a ça. Il y a aussi concernant les rôles, l'homme c'est le chef de la famille. De ce fait-là, ça lui confère un rôle de protecteur. Il doit protéger femmes, enfants, parents, toutes les personnes autour de lui. Donc l'homme doit jouer le rôle de protecteur. Il y a ça. Il y a aussi quelques petites caractéristiques physiques que l'on doit que doit d'autres hommes doivent être pourvus pour être véritablement un homme. Tu dois être barbu, des trucs comme ça. Bon, il faut dire que chez moi au Congo, on est majoritairement chrétien. Donc, on peut dire que la culture congolaise s'est devenue en quelque sorte une culture, disons, chrétienne. Donc, c'est beaucoup lié à la chrétienté, puisque tout ce qui se rapporte aux rôles sociaux des différentes personnes, c'est beaucoup lié à la chrétienté. Donc, c'est un peu ça. De façon, hein, de façon rapide, c'est un peu les caractéristiques en grandissant au Congo, qu'on nous a appris. Donc un homme doit être pourvu, patati patata.
Merci pour les exemples que tu as présentés. Ils semblent être positifs dans l'ensemble. Selon toi, quelles sont quelques caractéristiques qui peuvent être toxiques? Quand on parle de masculinité toxique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concept qui a été développé en psychologie pour définir l'ensemble des caractéristiques qui peuvent avoir des impacts négatifs sur la société, mais aussi sur les hommes eux-mêmes. Donc, en tant qu'homme, est-ce qu'il y a des caractéristiques que tu as vues dans ton entourage ou en toi-même qui peuvent être toxiques?
Alors déjà, de la façon que moi je comprends la masculinité toxique, c'est-à-dire que les mêmes caractéristiques qui sont attribuées aux hommes et que l'on considère comme étant positifs, ce sont ces mêmes caractéristiques-là qui peuvent avoir un effet nocif. C'est-à-dire que c'est comme si c'est une médaille qu'on nous remet à nous les hommes. Donc, lorsque tu es un homme et que tu rentres dans les critères-là de la masculinité tels que définis dans la société dans laquelle on vit, on te donne une médaille. Mais il y a le revers de la médaille. Et c'est ce revers de la médaille-là qui est ce qu'on appelle la masculinité toxique. Pour illustrer ça de façon très simplement, je veux dire, ce qui est problématique là-dedans, avec toutes ces choses positives, parce que lorsqu'on définit ce qu'est l'homme, il y a des choses positives qu'on dit, hein. L'homme doit être responsable, l'homme doit être fort, l'homme doit être ceci, l'homme est le chef, l'homme est le protecteur. Tout ça, vraiment, c'est des très, très bonnes choses. Le problème, c'est le verbe devoir. Lorsqu'on dit l'homme doit être, lorsqu'on dit l'homme doit être ceci, l'homme doit être cela, et que ça devient quelque chose d'impératif, c'est-à-dire on crée un moule, on dit l'homme c'est ça. Dès qu'il y a un truc qui dépasse, un truc qui ne rentre pas en considération donc ce qu'on a déterminé comme étant l'homme, dès cet instant, on est disqualifié. Par exemple, on parle de force physique. L'homme doit être physiquement fort et mentalement fort. Lorsque tu es un homme et que physiquement tu n'es pas très fort, c'est-à-dire que voilà quoi, la force physique, ce n'est pas ce qui te caractérise le mieux. Disons même que ça te fait défaut, dès cet instant-là, tu ne rentres plus dans le canevas de ce que doit être un homme. Donc, toi-même déjà, tu souffres du fait de ne pas pouvoir être un homme comme tous les autres. Et la société te rappelle à chaque fois que tu n'es pas suffisamment un homme parce que tu n'es pas fort physiquement. Et ça rentre même aussi dans le cadre de la force mentale. Voilà un peu la manière en fait que moi je comprends cette masculinité-là et comment est-ce que ça se manifeste. Pour prendre des exemples, je vais prendre l'exemple du fait de la force mentale. Quand on dit que l'homme doit être mentalement fort, l'homme ne doit pas céder à tous les sentiments comme les sentiments de tristesse. Parce que la tristesse, c'est en quelque sorte une faiblesse. Parce qu'on est triste, pourquoi? On est triste parce qu'on a mal par rapport à quelque chose. On est touché, on est atteint par quelque chose. Et pendant cet instant-là de tristesse, ce n'est pas, voilà quoi, un homme qui est triste, qui pleure et tout, machin. Ça ne fait pas beau, ça ne fait pas joli. Donc, on refuse ça. On refuse ça à l'homme. On lui refuse d'être triste. A contrario, la colère, Étrangement, la colère, c'est un sentiment qu'on veut bien laisser l'homme exprimer. On veut bien laisser l'homme exprimer, exploiter sa colère. Et cette colère-là qui va se manifester par de la force, c'est-à-dire que l'homme est en colère, il va utiliser cette force physique-là qu'il a pour manifester le fait qu'il est en colère. Donc, il va peut-être frapper quelqu'un, il va peut-être affronter une personne. Ça, par contre, dans une certaine mesure, on trouve ça assez normal. Et ça aussi, c'est toxique parce que être violent, c'est mal, c'est malsain. Donc voilà, pour dire clairement, c'est ça en fait, c'est la masculinité toxique, c'est le revers de la médaille de ce canevas-là, ce moule qu'on a créé et dans lequel tout le monde doit entrer obligatoirement. Voilà, c'est l'obligation de suivre le canevas qui est malsain selon moi.
On adore, on adore, on adore. C'était vraiment excellent. J'ai vraiment apprécié ton explication. Tu as un don. Tu sais vraiment t'exprimer et c'est vraiment génial. Pour quelqu'un même qui ne sait même pas de quoi on parle, juste à t'entendre, la personne saura exactement, la personne va comprendre. La manière dont tu as expliqué la masculinité toxique est très, très importante pour nos auditeurs, pour nos auditrices. L'exemple que Gloire a utilisé, les moules dans lesquels on essaie de mettre les hommes. Je pense que c'est une très belle métaphore quand on pense aux différents aspects de notre société. Par exemple, tu as évoqué le côté émotif. Hein, les hommes ne sont pas vraiment acceptés lorsqu'ils veulent exprimer certaines émotions. Donc, la seule émotion qui est acceptable, si on peut le dire, c'est la colère. Donc, lorsqu'on voit un homme violent, coléreux, bon, on trouve ça assez normal parce qu'on nous a conditionnés à accepter qu'un homme, bah, c'est comme ça qu'il doit exprimer ses émotions, genre la colère et tout, en étant violent. J'aimerais qu'on élabore un peu plus sur les différentes moules qui existent dans notre société. On peut parler du côté physique, tu as évoqué aussi cet aspect de la force physique ou avoir un certain type de corps et quand tu n'as pas ça, on ne te considère pas homme assez. J'aimerais qu'on continue un peu plus sur les différentes moules. En premier, parlons un peu plus du côté finance. Dans notre société, l'homme est supposé s'occuper de sa famille et ça sous-entend financièrement. Du coup, on attend que l'homme ait les moyens financiers pour s'occuper de sa personne, mais aussi de sa famille. Et ça met beaucoup de pression sur les hommes. Et toi, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu penses que le fait que l'homme est défini par son pouvoir financier, qu'est-ce que cela... Comment est-ce que tu vois cela? Et selon toi, comment est-ce que ça peut devenir toxique lorsque on met tellement d'accent sur le côté financier?
Ah, l'argent. Vraiment, c'est le point en question. Le point de l'argent. Tu vois, les mots qui sont utilisés ne sont pas des mots anodins. Ce n'est pas pour rien qu'un homme, toute sa vie, on l'appelle monsieur. Voilà, c'est pas anodin. C'est-à-dire, le petit garçon de 2 ans, c'est un monsieur. Et le gars qui a 90 ans aussi, c'est un monsieur. Les deux sont des monsieur, c'est pas pour rien. Ça veut dire que depuis quand t'es petit, t'es un homme, tu grandis, tu sais que t'es un monsieur. Tu sais que, tu as cette charge-là déjà sur ta tête, ça pèse déjà dans ton esprit. La toxicité de tout ça, en fait, c'est dans le même contexte qu'avec ce que j'ai raconté à propos de la force physique et mentale et autres, c'est lorsque il n'y en a pas. Parce que on met aux hommes la pression de faut qu'ils aient les moyens financiers de s'occuper de leur famille, mais en même temps, on donne aux hommes les possibilités, les outils. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'égalité dans certains secteurs, mais il fut un temps où tout était mis à disposition pour que l'homme ait plus de moyens financiers que la femme. Par exemple, dans la charte du Monde, il est dit que les femmes elles peuvent se marier dès lors qu'elles ont la puberté. Par contre, les hommes, tu dois attendre d'avoir 20 ans minimum. Mais les 20 ans minimum qui sont donnés, c'est d'abord pour que l'homme puisse être mature, qu'il ait le temps de devenir mature dans sa tête, qu'il ait aussi le temps de réunir les moyens matériels pour pouvoir prendre soin de sa famille. Dans les sociétés un peu plus modernes, il y avait la possibilité pour les hommes d'aller étudier, la possibilité pour les hommes de travailler. Donc tout ça, ça faisait que les hommes avaient la possibilité d'avoir les moyens financiers en fait pour s'occuper de cette famille-là. Donc c'était pas, voilà, c'était pas véritablement un souci. Ou bien ça a été un souci, mais c'était un peu plus tempéré. Aujourd'hui, le truc dont moi je peux parler personnellement, que je constate par rapport à cette pression sur les finances, c'est, je dirais, la peur de l'engagement. Moi, Onief, jusqu'à peut-être au début de cette année, j'avais peur de me projeter dans une relation durable parce que, véritablement, hein, je peux dire aujourd'hui ce qui me manque pour me marier, pour épouser la fille avec qui je suis en couple actuellement, la fille que j'aime, c'est l'argent. Parce que quand j'irai devant ses parents, ils vont me poser la question, mon petit, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Je vais dire que je suis écrivain, mais actuellement, financièrement, ça ne va pas trop. Qu'est-ce que je mets sur la table? Il faut payer la dot. Mais moi, je n'ai pas les moyens de payer cette dot-là. Donc, ça fait que j'ai cette peur-là, en fait, d'entrer dans une relation où véritablement, je vais devoir jouer mon rôle d'homme qui est celui de pourvoyeur économique. Et moi, actuellement, je n'ai pas la possibilité d'être un pourvoyeur économique. Ça fait que c'est comme si je suis éliminé de la course, on peut dire de la course à l'amour. Voilà. Donc, tu n'as pas l'argent, tu n'es pas suffisamment un homme. Disqualification immédiate. Donc, moi, c'est l'aspect que véritablement je voulais mettre en avant. Il y a encore d'autres choses qui rentrent en compte. Hein. Il y a le fait que, vu qu'on a mis dans nos têtes que voilà, c'est nous qui devons avoir les sous, quand tu es face à une femme qui a les sous et que toi, tu n'en as pas, bah, tu as l'impression d'être. Ça va tout le même contexte, quoi. Tu as vraiment l'impression d'être inutile. Genre, à quoi tu sers? Le rôle que tu es censé jouer, celui de pouvoir économique, tu ne le joues pas. Donc finalement, à quoi tu sers en tant qu'homme? Quelle est ton utilité? C'est même les phrases que les femmes ont l'habitude de nous dire. Non, je suis en couple avec toi, tu es juste un étudiant, tu ne me donnes pas de l'argent, qu'est-ce que tu m'apportes? Ah, c'est compliqué, hein? L'argent, l'argent, l'argent. Bon, je ne sais pas si je pense que j'ai même beaucoup parlé, hein? Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais je pense que c'est ça.
Ah ouais. Tu as touché un point très, très important. Les conséquences de cette pression sur les hommes. Et comme on le voit, il y a beaucoup d'hommes célibataires. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'amalgames sur les femmes célibataires, mais il y a énormément d'hommes célibataires. Et la raison pour laquelle ils le sont, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de se marier. Surtout chez nous en Afrique, tu dois payer la dot. Et dans plusieurs cultures et régions, la dot est super élevée. Et si tu n'as pas assez de moyens, bah, c'est un frein pour toi. C'est assez triste comment notre société est organisée autour de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas considéré. Et surtout pour les hommes, être défini par combien d'argent vous avez, j'imagine même pas. J'imagine même pas comment vivre ça. C'est vrai que nous, les femmes, nous avons d'autres pressions que nous devons gérer. Mais parfois, j'essaie de me mettre à la place d'un homme et d'essayer de comprendre et d'essayer de ressentir certains trucs que vous vivez. Et j'ai mal. J'ai énormément mal. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est le fait que beaucoup d'hommes n'expriment pas tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils traversent. Et malheureusement, ça affecte leur santé mentale. Et là, on voit que le taux de suicide est très élevée, surtout dans nos pays. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a un taux de suicide des hommes très élevé dans le monde. Et quand tu regardes ces statistiques, ça te fait penser, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on regarde la société, on voit dans laquelle les hommes sont traités, les hommes, les différentes attentes, les attentes qu'on a pour nos hommes, et comment nos hommes sont dans des cages et ils ne peuvent pas vraiment être comme ils veulent être. Et là, ça impacte énormément les santé mentales. Je me rappelle, il y a eu un incident il y a quelques années. Il y avait un homme qui avait eu des petits soucis avec sa femme ou sa petite amie. Et le gars, il s'est jeté dans un puits. Il voulait se tuer. Dieu merci, il n'est pas mort. Mais ça, c'est un exemple sur des milliers, sur des milliers. Donc, toi, en tant qu'homme encore, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter aux hommes d'être un peu plus ouverts quand il s'agit de leur santé mentale, de partager un peu plus. Parce que, en tant que femme, j'aimerais être là pour mes amis, pour mes frères et tout, mais c'est difficile quand la personne en face de toi ne sait même pas comment s'ouvrir et comment te dire tout ce qu'elle traverse. Donc, là, j'ai juste besoin de conseils et j'aimerais savoir aussi ton avis en tant qu'homme. As-tu eu des moments de faiblesse ou des moments où ta santé mentale était vraiment basse et qu'est-ce que tu as fait ou comment est-ce que tu t'es senti? Quels moyens et solutions as-tu eu recours pour mieux te sentir? Donc, je pense que ça va conclure notre conversation, à moins que tu veux qu'on continue.
Ah bon, pour la conversation, moi je suis prêt à continuer, il y a encore beaucoup de choses à dire. D'abord, on a parlé du suicide et autres. Avant de répondre à ta question, il y a une manière par laquelle ça se manifeste. Et chez nous en Afrique, on a tendance à dire oui, il n'y a pas de problème et tout machin. Il faut se rendre compte du fait qu'il y a énormément d'alcooliques chez nous. Les hommes boivent comme si c'était le jus de pomme. Voilà, les gens boivent à foison. Ils boivent comme si demain n'existe pas. On se dit que oui, c'est pour s'amuser, les gens boivent, mais cette boisson que les gens consomment, il y a une grande partie, une très très grande partie, qui est causée par les frustrations liées au statut d'homme. Tu es un homme, tu es dans un pays où c'est difficile d'avoir du travail. Comment tu fais pour assurer les charges? Tu n'as pas le moyen d'évacuer cette frustration-là. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas boire. Tu bois. L'alcool, ça t'inhibe. Donc, tous tes inhibiteurs et autres-là sont désactivés. Tout sort, la violence se manifeste, voilà, tout sort. De quelle façon il faut aider les hommes? D'abord, je vais partir dans le témoignage par rapport à cela. Personnellement, j'ai eu à certains moments de ma vie, notamment après le baccalauréat et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire et que j'ai étudié là-bas, ça a été pour moi une période difficile pendant laquelle il fallait en fait que je construise ma vie future. Mais les perspectives que je voyais devant moi ne me semblaient pas favorables. Ce qui se présentait devant moi n'était pas en accord avec ce que j'espérais faire, ce que j'espérais construire. Donc, j'étais mal dans ma peau par rapport à cela. Et je ne savais pas vraiment vers quel sein me vouer ou autre. Mais comme on dit souvent chez nous, on dit la vie d'un homme est dure. Donc, quand tu es un homme, ta vie est dure, il faut que tu te battes. La seule chose que tu as à faire, c'est de te retrousser les manches et d'avancer. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Et se retrousser les manches et avancer, C'est pas facile. C'est complexe. Et dans cette complexité-là, par rapport au fait de se retoucher les mains et d'avancer, ce que moi j'ai fait, c'est d'accepter que je suis vulnérable. Je suis vulnérable. Accepter que je suis faillible. Accepter que je ne suis pas Superman, que voilà, que je suis une personne, que j'ai des faiblesses et que j'ai besoin d'être aidé par les autres. Donc, j'ai essayé de tendre, j'ai tendu la main pour, j'ai sorti la main de l'eau pour que quelqu'un puisse attraper ma main et m'aider. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup été aidé par le féminisme. Voilà, la compréhension du féminisme a beaucoup aidé à sortir la tête de l'eau. Pour d'autres personnes, c'est peut-être pas ce qui va les aider, c'est peut-être pas ce dont elles ont besoin, mais ça peut s'avérer être une solution, c'est-à-dire pas le féminisme, mais reconnaître qu'on est faillible, reconnaître qu'on n'est pas Superman, reconnaître qu'on a des failles et sortir la main de l'eau en espérant que quelqu'un puisse repêcher notre main. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué dans la mesure où, dans la manière en fait que nous, les hommes, nous sommes éduqués, on nous fait déjà comprendre que ça va être difficile pour nous et que malgré la difficulté, il va falloir se débrouiller. C'est tout ça en fait qui rend la chose beaucoup plus complexe en fait. C'est pas comme si les difficultés que nous vivons sont des surprises. On sait que ça sera difficile. On nous a déjà mis dans la tête que ça sera difficile et qu'on va devoir se débrouiller. De ce fait, lorsqu'on est un homme et qu'on est dans les difficultés, il n'y a personne pour nous aider parce que tout le monde sait qu'on est un homme. Donc, en surmontant les épreuves, on prouve aussi qu'on est un homme. Tout ça crée tout un cercle vicieux qui fait que bah, tu es seul face à toi-même. Mais bon, je pense qu'il faut prendre le temps d'écouter les personnes, donner un espace aux gens pour s'exprimer sur leurs maux, leurs douleurs. Et pouvoir leur proposer je dirais pas des raccourcis, mais des moyens pour ces personnes-là d'avancer vers un chemin moins tortueux pour elles. Voilà. C'est assez théorique comme solution que je propose, mais je pense que c'est d'abord quelque chose de psychique, c'est d'abord dans la tête qu'il faut faire le travail de se dire, ah non, je suis faillible. Voilà. Commencer par là et puis le reste, je pense que ça va venir un peu un peu. Étant donné que nous sommes en train de parler masculinité et autres, moi j'ai une question par rapport à tout ce que nous avons dit, tout ce qui est toxicité par rapport à cette masculinité-là, perception et autres. Il y a aussi une sorte d'influence que les femmes exercent sur nous, sur la façon que nous-mêmes nous voyons. Bien sûr, ça s'explique clairement par le fait dans les rapports dominants-dominés qui expliquent en fait pour quelles raisons est-ce que les femmes sont accrochées à cette idée de l'homme l'homme protecteur, l'homme ceci, l'homme cela, donc tous les stéréotypes dont nous avons parlé ici. Mais moi, je voulais directement te poser la question en fait pour comprendre comment est-ce que toi tu perçois ça? Comment est-ce que toi tu perçois la masculinité? Et par rapport déjà à cette perception qui est cliché-là et la perception que toi tu as de la masculinité, comment maintenant tu réagis dans cette société moderne-là lorsque tu es face à un homme et que bah, cet homme ne remplit pas en fait les critères communs, connus de ce que doit être un homme, notamment dans le contexte financier, c'est-à-dire un homme incapable d'être un pourvoyeur économique, comment est-ce que toi comment est-ce que là, tu réagis en fait face à cet homme-là? Comment est-ce que tu le prends? Est-ce que c'est un homme avec qui tu te vois être? Est-ce que c'est un homme avec qui tu te vois pas être et tout machin? Je voudrais un peu comprendre ça en fait.
Très, très, très bonne question. Avant de répondre à tes questions, j'aimerais faire un commentaire sur quelque chose que tu as évoqué, notamment l'influence des femmes sur les hommes. Surtout, cette influence qui renforce les stéréotypes qu'on a évoqués un peu plus tôt. En effet, on vit dans une société qui est largement définie par les hommes. Nous, femmes, en tant qu'actrices, qui sont vraiment à la deuxième place. Nous suivons ces normes. Et en ce qui concerne la masculinité, ce que c'est un homme, on retourne ce qu'on nous apprend. On nous apprend qu'un homme, c'est quelqu'un qui peut pourvoir pour sa famille, qui peut prendre soin de sa famille financièrement, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui ne pleure pas. Du coup, quand tu es une femme et tu es à l'âge de marier ou de vouloir être dans une relation amoureuse, sincère, tu recherches ces différents critères. Et quand tu rencontres des hommes qui n'ont pas ces critères, la première des choses, c'est de ne pas les considérer parce que tu te dis que, bon, vous n'êtes pas vraiment ce qu'un homme est supposé être. Parce que depuis ton enfance, on t'a appris que c'est ceci, c'est cela, un homme. Ma perception de la masculinité, elle est vraiment similaire à la tienne. Les différentes caractéristiques que notre société a attribuées aux hommes, que ce soit physique, financier ou émotionnel ou autre chose. Quand je pense à la masculinité, ben, je vois ça. Et c'est assez intéressant. On ne parle pas assez du rôle que les femmes ont dans la masculinité toxique. Malheureusement, il y a certaines femmes qui sont un peu plus coupables qu'on ne le pense. Et en fait, elles renforcent ces stéréotypes. Par exemple, tu vas rencontrer un homme, il est très doux, il est vraiment attentionné et tout, mais parce que tu as l'idée de l'homme qui est supposé être dur, qui ne montre pas d'émotion, qui est supposé vraiment ne pas te donner autant d'attention, quand tu rencontres un homme comme ça, bah, tu dis non, 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 genre, tu lui marches sur la tête. Tu vois? Et on nous dit même souvent que les femmes, elles aiment les bad boys. Parce qu'on nous a donné cette idée que ouais, un bad boy, c'est un vrai homme. Mais les hommes qui sont supposés être gens doux ou bien autres, ils sont pas hommes assez. Et ça crée un cercle vicieux. Là, on est à la recherche des caractéristiques qui sont supposées être toxiques. Et là, on va se retrouver dans des relations avec des hommes toxiques. Et on se demande, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Mais depuis le début, en ce qui me concerne, quand je rencontre quelqu'un, et il ne remplit pas forcément les critères communs. Quand je dis les critères communs, peut-être côté financier. Il n'a pas une situation financière stable. Bah, c'est difficile, je ne vais pas mentir, c'est difficile parce que pour moi, c'est important qu'un homme ait une situation financière stable. Et quand je dis stable, ce n'est pas forcément qu'il a des millions, mais quelqu'un qui peut s'occuper de lui-même. Et si on est ensemble, il pourra s'occuper au moins du nécessaire. Et je ne suis pas forcément pour l'idée que l'homme doit couvrir toutes les charges. Parce que dans nos sociétés, c'est ce qu'on dit, mais en réalité, ce n'est pas le cas. On voit énormément de foyers où c'est les femmes vraiment qui couvrent tout. Mais les hommes sont juste l'image, le chef de famille. Mais dans les détails, on voit bien que c'est la maman qui couvre presque tout. Donc cette idée d'être avec un homme qui va couvrir toutes les charges, je ne crois pas en ça. Mais je crois plus en l'idée que il faudra que ce soit un partenariat où ensemble on s'entraide et on fait le maximum pour aider l'autre à être meilleur. Mais c'est bien de penser ça, mais on se rend compte que il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont encore coincés dans cette mentalité que l'homme doit toucher plus et s'il touche plus, il a tout le pouvoir, c'est lui qui peut décider de tout. Mais on se rend compte que de nos jours, il y a beaucoup de femmes très éduquées comme moi qui ont une bonne situation, qui ont fait de longues études. Du coup, quand on rencontre des gens de notre génération qui ne sont pas allés forcément loin comme nous, il y a une grande majorité qui se sent intimidée parce qu'ils se disent que non, je remplis pas les critères qu'elle recherche parce que qu'est-ce que je vais lui apporter? Et c'est quelque chose que toi-même tu as mentionné un peu plus tôt. C'est dommage, mais c'est vrai. Et donc, ça fait que quand tu rencontres quelqu'un, ben, dans la première conversation, tu veux au moins avoir une idée de, OK, sa situation financière, c'est comment? ou bien genre par l'apparence. Tu essaies de deviner parce que tu ne veux pas être dans une situation où l'homme va se sentir intimidé. Et quand c'est le cas, vraiment, c'est très désagréable. Et j'ai vécu ce genre de situation où le mec, il me trouvait bien trop intelligente pour lui. Pour lui, l'homme est supposé être le plus intelligent. C'est lui, genre, il est le plus fort dans tous les domaines. Et là, il tombe sur Yasmine Camara. Et Yasmine Camara, c'est une femme qui est super ambitieuse, super intelligente. Il ne savait pas comment gérer ça. Et c'est devenu comme une concurrence. Et moi, je ne veux pas faire la concurrence avec mon conjoint. Non, c'est pas ce que je cherche. Je veux quelqu'un qui va me soutenir, je vais le soutenir, tu vois. Donc, ce serait tellement plus facile si les idées étaient un peu plus ouvertes et que les esprits surtout étaient un peu plus ouverts au fait que le monde change. Ces différentes idées qu'on a, ces stéréotypes qu'on a par rapport à la masculinité doivent vraiment évoluer. Et surtout pour nous les femmes, il faut qu'on soit un peu plus actives dans le mouvement. On est trop passives. Et c'est malheureux qu'on participe négativement au renforcement de ces stéréotypes. Mais ce serait encore meilleur si on pouvait être des participantes actives à la destruction de ces stéréotypes-là. Donc, j'espère avoir répondu à tes questions. Et j'ai une autre question pour toi aussi. Tu as évoqué quelques effets, quelques conséquences de la masculinité toxique sur nos hommes dans nos pays tropicaux en Afrique et autres. Un des exemples que tu as mentionné, c'était l'alcoolisme. Comment énormément de jeunes hommes boivent et on ne s'en rend pas compte, mais c'est parce qu'ils essaient de noyer vraiment toute la frustration qu'ils vivent. En tant qu'homme, j'aurais encore, quels sont d'autres effets ou conséquences de la masculinité toxique qui ne sont pas aussi évidents? Des trucs que on ne saurait pas que c'est à cause de toute cette pression-là que certaines personnes agissent de cette manière. Parce que là, j'essaie de réfléchir. Je suis sûre qu'il y en a énormément, mais toi, en tant qu'homme, je pense que tu es mieux placé pour savoir comment vous pensez et comment la masculinité toxique vous affecte.
Merci pour ta réponse. Hein. Tu as parfaitement répondu à ma question et je suis satisfait de la réponse. La question que tu me poses, c'est une très bonne question et je dois dire que c'est une colle parce que moi-même, j'ai essayé de faire l'exercice mental de m'interroger en fait personnellement à ce sujet-là, de me dire, est-ce qu'au final, il n'y a pas une exagération à propos du fait que ouais, les hommes masculins sont toxiques et tout. Quelles sont les choses assez subtiles que nous, les hommes, nous vivons qui sont directement liées, qui sont les conséquences, voilà, le revers de la médaille de notre position d'homme? Alors, et je dois dire que c'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre parce qu'en fait, le gros souci, c'est tout le caractère noble de cette masculinité-là. Si, ça a l'air tellement noble, tellement bien, qu'au final, ça ne semble pas être un problème. C'est-à-dire que le problème ne semble ne pas venir de cette notion-là, mais le problème semble venir de nous. Comme je l'avais dit plus haut, dès que tu nais, tu es un homme, tu es un monsieur. C'est-à-dire que tu n'as pas grand-chose à faire. Tu nais, on te donne ça déjà. Ce titre-là d'homme protecteur, patati patata, voilà, ça est là. Tu es déjà ça. Mais au fur et à mesure que tu avances, c'est comme si c'était une course. Voilà, un exemple très, très concret. C'est comme si c'est une course. Et au départ, tout le monde a, disons, les mêmes chances de gagner cette course, de remporter cette course-là. Et au fur et à mesure qu'on avance, c'est là maintenant qu'on se rend compte de qui remplit les critères ou pas de gagner le titre d'homme dans la société dans laquelle on vit. Au fur et à mesure qu'on avance, on est petit à petit disqualifié par certains petits détails et La violence, on se la fait nous-mêmes. Genre, nous-mêmes, on se fait violence sur nous-mêmes. Ah, j'ai pas pu, j'ai pas pu, j'ai pas pu, j'ai pas pu faire preuve d'assez de virilité, j'ai pas pu faire preuve d'assez de ceci, d'assez de cela. Voilà quoi. Il y a énormément de choses. Il y a les conquêtes, les multiples conquêtes féminines. Il y a des gens qui sont naturellement des personnes volages. Voilà quoi, genre, c'est une personne qui aime coucher à gauche, à droite. Mais il y a des gens qui deviennent volages uniquement parce que dans le contexte social dans lequel ces personnes-là sont, bah, avoir plusieurs copines, c'est une façon de prouver qu'on est viril, qu'on est un homme. Donc, c'est ça. Voilà. Le gars, il veut avoir plusieurs copines juste pour prouver qu'il est un gars. Tu as encore, ça c'est un exemple. Tu as le souci qu'on peut se faire à propos de nos performances sexuelles. Voilà, regarde même le mot performance sexuelle, puissance sexuelle. Y a tout un souci au niveau de ça, toute une réflexion. Suis-je assez puissant sexuellement? Suis-je assez performant? On se met la pression pour ça. On se met la pression pour la taille de nos pénis parce que il faut avoir un pénis d'une certaine taille, à ce qu'il paraît, pour pouvoir entrer dans le canevas des hommes. On se met la pression pour ce genre de choses, on se met la pression pour, en fait, chaque petit détail qui peut remettre en cause notre autorité masculine, on se met la pression sur tous ces petits détails. Il y en a tellement, hein. Là je pense que j'en ai cité quelques-uns. J'espère avoir répondu à ta question. Si je n'ai pas répondu, tu me dis comme ça, je vais revenir dessus.
Oui, tu as répondu à ma question. Merci encore. Donc, j'aimerais revenir sur un sujet. Je ne sais pas si on a déjà parlé, mais il s'agit de cette idée que les hommes sont intimidés par les femmes qui sont plus intelligentes qu'eux ou qui ont des diplômes un peu plus élevés qu'eux. Aujourd'hui, j'étais sur Facebook et j'ai vu un post qui parlait du fait qu'il y a une femme à qui on a suggéré d'enlever le fait qu'elle ait un PhD sur son profil parce que, elle cite, ça pourrait faire peur à certains hommes et qu'il ne faudrait pas que je le mette en avant comme ça. Donc, le fait qu'elle ait un PhD et qu'elle le mette en avant sur son profil, les gens viennent lui dire que, oh, il faudrait pas faire ça, ça va effrayer les hommes. Les hommes n'aiment pas les femmes qui sont trop intelligentes. Donc, toi, en tant qu'homme, tu peux nous expliquer un peu la raison pour laquelle certains hommes pensent ainsi? Je comprends que ça remet en cause leur autorité, puisqu'ils se disent qu'un homme est supposé être en avant sur tous les domaines. Mais quand il s'agit d'être avec une femme et cette femme a des capacités intellectuelles qui peuvent paraître plus élevées que les vôtres, est-ce un frein à la relation? Si oui ou si non, mais aussi, qu'est-ce qui pousse certains hommes à se sentir autant intimidés ou effrayés par ces femmes intelligentes, déterminées et ambitieuses? Toi, en tant qu'homme, tu peux partager ton avis, s'il te plaît?
Apparemment, nous avons eu la même journée sur le net. Parce que moi aussi, je suis tombé sur cette publication-là. Et j'ai vu les témoignages qui allaient dans le sens de confirmer que les hommes ont peur des femmes qui sont socialement plus élevées qu'eux. Il y a même une autre publication faite par Chanté Siloué, je crois que c'était dans les jours qui sont passés, là, il n'y a pas très longtemps. Où elle posait la question de savoir comment est-ce que les femmes vivraient le fait d'être avec des hommes qui sont financièrement moins qu'eux. Et elles étaient toutes d'accord pour dire qu'elles veulent bien, enfin pratiquement toutes d'accord pour dire qu'elles veulent bien, mais elles ne veulent pas froisser l'ego des hommes, parce que les hommes ont apparemment un ego fragile. À cela, moi, je dis oui. Les hommes ont un ego fragile. Pour la simple raison que bah, l'ego en question repose sur Je dirais pas des faussetés, mais des demi-vérités. Voilà. Des demi-vérités. Lorsqu'on se base sur des trucs tels que les hommes sont plus intelligents que les femmes, raison pour laquelle c'est eux les chefs, il y a vraiment, c'est totalement faux, puisque il faut prendre les choses au cas par cas. Si toi, toute ta vie, tu as grandi avec l'idée que, bah, étant un homme, c'est-à-dire que tu es plus intelligent, quoi. Il y a aucun moyen que tu tombes dans une situation où une femme sera plus intelligente que toi. C'est de l'impossibilité. Lorsque toi, un homme, tu construis ta personnalité autour d'une assertion comme celle-là, bah, quand tu arrives devant une femme comme Michelle Obama, tu sais pas quoi faire. Genre, tu vas faire quoi? C'est une femme et elle est plus intelligente que toi. Tu es perdu. En fait, intéressant là-dedans, c'est que ça fait partie, en fait, du revers de la médaille. Socialement, on donnait aux hommes les outils nécessaires pour que cette domination, qui est rien qu'un concept, soit une réalité. Ça soit comme si c'est quelque chose de naturel, de biologique. C'est-à-dire qu'on a donné aux hommes les occasions d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de connaissances. Et bah, c'était normal, en fait. C'était pratiquement impossible pour un homme à une certaine époque de rencontrer une femme qui est plus que lui. Alors qu'aujourd'hui, bah, on a presque donné les mêmes chances à tout le monde, homme comme femme. Bah, tu vas tomber dans une situation où tu as un gars comme moi, Gloire Wanief, 24 ans, je n'ai que le baccalauréat, et je vais rencontrer une fille qui a 22 ans et qui a déjà un master 2. Tu vois, si elle a un master 2, c'est que peut-être elle gagne beaucoup plus d'argent que moi. Et là, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud dans la mesure où, socialement, on n'a toujours pas déconstruit cette affaire de l'homme est le chef. L'homme est le surpuissant, l'homme est le maître de jeu et tout machin. Donc, lorsque tu es face à cette situation-là, bah, quelles sont les alternatives? Bah, les alternatives, c'est simplement de fuir, de ne pas être avec cette femme-là parce qu'elle est plus que toi. Simplement. Genre, voilà, c'est aussi simple que ça. Cette femme-là, tu ne peux pas être avec. Elle est plus que toi. Et toi, puisque tu es dans une logique de domination, une logique de tu es l'homme, donc tu es supérieur, tu ne peux pas être avec cette femme-là qui est plus que toi. Tu vas faire quels sont les outils dont tu disposes pour pouvoir la soumettre. Puisque la soumission, c'est pas. Moi, je dis toujours, la soumission, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui vient avec les différents outils que l'on rencontre. Il y a par exemple l'âge. Je discute souvent avec des filles qui me disent elles ne peuvent pas être avec un homme moins âgé. Ou avec un homme qui a leur âge, il faut qu'elle ait un homme beaucoup plus âgé parce que le respect. Parce que l'homme qui est plus âgé, déjà, ça montre quelque part qu'il a plus d'expérience. Donc, c'est déjà un outil de soumission. La femme vient vers cet homme-là qui est plus âgé, donc plus expérimenté. Elle se soumet à lui à cause de son âge, de son expérience. L'homme qui a plus de diplômes, il a plus d'argent, il a plus de plus de plus de plus de plus de tout ce qu'il faut. Et bah, elle se soumet parce que le gars, il a toutes ces choses-là. Donc, cet homme-là qui est face à cette femme-là qui est plus que lui, bah, de quel outil dispose-t-il pour asseoir sa domination? Il n'a rien du tout. Donc, il ne peut pas être avec cette femme-là parce qu'il ne peut pas dominer cette femme-là. Je dirais que c'est ça, en fait, le truc. Parce que dans une société où il y a de nombreux éléments qui constituent des outils de pouvoir, des outils de domination, être avec une femme qui possède plus de pouvoir social que nous, c'est d'abord même reconnaître qu'on est inférieur à cette femme-là. En se basant sur les outils en question, les outils-là, ils sont l'argent, les diplômes, notamment la force physique, etc., etc. Être avec une femme qui a toutes ces choses-là plus que nous, c'est reconnaître que cette femme-là est supérieure à nous. Et c'est remettre en question l'autorité de l'homme, cette autorité qu'on nous a inculquée toute notre vie. Toute notre vie, on nous dit qu'on est l'autorité, que nous, les hommes, nous sommes les chefs, que les femmes nous doivent soumission. Être avec une femme qui a plus que nous, c'est balayer, en fait, balayer complètement ce truc-là, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si tu te tirais toi-même une balle dans le pied par rapport au patriarcat. Tu vois? Mais déjà même, c'est déjà compliqué pour les hommes, certains hommes notamment, de reconnaître simplement le fait que hommes et femmes sont égaux dans une logique humaine, dans une logique intellectuelle et tout machin. Alors, combien de fois être dans une situation où tu dois t'obliger, où tu dois accepter que ta femme, que ton épouse, que la femme est supérieure à toi? Est-ce que tu vois un peu comment il y a véritablement une grande dissonance cognitive qui se crée à ce niveau-là? C'est chaud, hein? C'est chaud. Et le truc, c'est que peut-être que vous, les femmes, vous ne le savez pas, mais nous, les hommes, nous le savons, que toutes ces petites choses-là sont des outils de domination. Les diplômes, l'argent, voilà, le statut social. Toutes ces choses-là sont des outils de domination. Le nom de famille, toutes ces choses-là sont des outils de domination. C'est pourquoi nous, les hommes, moi-même, Wanief, je n'accepterai pas de prendre le nom de ma femme. Je n'accepterai parce que je sais que c'est un outil de domination. Et moi, je n'ai pas envie d'être dominé. Moi, j'ai envie de l'égalité. Je n'ai pas envie d'être dominé par ma femme. Je n'ai pas envie d'être dominé par qui que ce soit. Donc, je n'accepterai pas d'être dans une situation où je suis dominé. Tu vois?
Wow, you dropped a lot of knowledge. Wow. Eh ben, si je comprends bien, tout revient à la domination, au pouvoir. Qui a le pouvoir? Donc, les hommes, depuis la nuit des temps, ont créé une société dans laquelle ils détiennent la majorité des outils qui leur donnent le pouvoir, que ce soit l'argent, que ce soit la connaissance, le savoir. Et là, au 21e siècle, on se rend compte que les choses changent. Les femmes sont beaucoup plus ouvertes. Les femmes deviennent plus éduquées, plus financièrement indépendantes et stables. Et ça chamboule les choses. Cette question de domination, cette question de pouvoir commence à être questionnée par les femmes. Et je trouve ça tellement intéressant. Chaque fois qu'on rapporte ce sujet, il y a toujours un homme qui va dire, ouais, ça ne me dérange pas d'avoir une femme qui est plus éduquée, qui a plus d'argent, du moment où elle connaît sa place dans le foyer. Et ça me ramène toujours à demander, c'est quoi sa place dans le foyer? Et évidemment, le mec va te dire, alors, en tant qu'homme, je suis le chef de famille, ma femme doit me respecter, peu importe son argent ou ses diplômes. Donc, ces questions de respect, ces questions de soumission, c'est comme si on a fait croire aux hommes que il faut qu'ils aient ces différents, je sais pas, pour genre être un homme, ça veut dire que forcément la femme doit se soumettre à toi. Et surtout encore plus quand tu as ces différents outils, si tu as l'argent, si tu as le statut social et tout. C'est pour ça qu'on entend beaucoup, surtout en Côte d'Ivoire, on entend dire, ah mon frère, cherche ton argent, quand tu auras ton argent, tu auras toutes les femmes du monde. Cette pensée, même cette idéologie est tellement sexiste, c'est tellement toxique, on ne s'en rend même pas compte. Et tu vois beaucoup d'hommes aussi, bah, c'est leur motto, hein. Ils se disent, ouais, je cherche l'argent, quand j'aurai l'argent, j'aurai toutes les femmes que je veux. Parce qu'on leur a fait croire que avoir ces différents outils, avoir l'argent et tout ça, ça leur permet d'avoir une autorité qui ne peut être questionnée. C'est quand même fou. J'aimerais qu'on commente un peu plus sur ce concept de nom de famille. Je ne suis pas assez familière sur les origines et comment ça se passe dans différentes régions, mais je peux parler sur le concept de nom de famille dans la religion musulmane. Et pour ceux qui savent, la religion musulmane est aussi beaucoup influencée par la culture arabe. Dans la culture arabe, le concept de nom de famille, en fait, tu es nommé après ton père. Donc, si moi, par exemple, chez Yasmine Camara, Non, c'est Yasmine, la fille de Camara. Donc, quand je vais me marier, normalement, je ne dois pas prendre le nom de famille de mon mari parce que ça voudrait dire que, par exemple, disons que mon mari s'appelle Koné. Et j'en suis, je deviens Yasmine Camara, c'est comme si genre, c'est Yasmine, la fille de Koné, alors que non, je suis Yasmine, la fille de Camara. Donc, le concept de nom de famille, même dans la religion musulmane, c'est pas un truc qui s'applique quand on se marie, parce que normalement, tu ne dois pas changer ton nom de famille, c'est ton nom qui t'est attribué à ta naissance. Mais je me dis que, bon, dans différentes régions, c'est différent et tout. Et en Afrique, en Côte d'Ivoire, bon, je sais qu'il y a certaines régions en Côte d'Ivoire où le concept de nom de famille, c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ça a été beaucoup influencé par la colonisation. Avec la France qui nous a colonisés, il y a beaucoup de nos cultures qu'on a délaissées, beaucoup de nos pratiques et traditions qu'on ne suit plus. Bon, maintenant, on voit que la majorité, on a les noms de famille, tu te maries, tu prends le nom de famille de ton mari. Mais je me demande si les gens questionnent en fait ce concept de domination derrière prendre le nom de famille de son mari. Parce que personnellement, moi, je ne veux pas perdre mon nom de famille parce que je me dis que mon nom de famille, c'est mon identité. Si je me marie à un connu, un touré, un camarade, quoi que ce soit, je deviens sa femme, je deviens pas, je suis pas sous sa tutelle pour dire que je dois changer mon nom de famille. Je ne sais pas si c'est moi qui suis un peu trop à gauche ou à droite, mais l'idée de se soumettre à son mari, à son époux, c'est quelque chose qui revient tellement fréquemment, et surtout dans le cercle religieux, que ce soit en islam, que ce soit dans la christianité, dans le christianisme, désolé. C'est comme si tout tourne autour de la soumission, et la femme, on dit femme, soit soumise à ton homme. Mais on ne parle pas du fait que qu'est-ce que cette soumission-là signifie réellement? Parce que tu vas entendre tellement de différentes explications, de différentes définitions et tout. Mais au final, vraiment, selon ta description, la soumission, c'est vraiment pour un outil, c'est vraiment la domination. Parce que en tant comme je dis que tu es ma femme, je t'épouse, c'est moi qui décide tout, tu dois être soumise à moi. Pas, je sais pas. Pivotons un peu sur ça, cette idée de nom de famille, cette idée de domination, cette idée de soumission. Comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet dans nos familles, dans nos cercles d'amis, sans que les gens se sentent assez frustrés ou sur le garde? Parce que parfois, tu veux en parler de ça et les gens, on se dit, c'est un truc qui ne doit même pas être questionné. Tu dis oui, tu peux être féministe au travail, tu peux être féministe à l'école, mais dès que tu rentres dans ta maison, mais que tu es mariée, l'homme est le chef de famille, toi, tu es la femme, tu dois être soumise. OK.
Alors, je vais d'abord rebondir sur le nom de famille. Je pense qu'il est très intéressant que chacun d'entre nous puisse comprendre d'où vient cette affaire de prendre le nom de son papa et ensuite, pour les femmes, prendre les noms de leurs époux. Il est très important que les gens comprennent ça, comprennent d'où ça vient, parce que ça va leur montrer un peu toute la perversion, la perversité dans laquelle, de domination dans laquelle nos sociétés ont été bâties. Si ça ne montre pas ça aux gens, bah, c'est quand. Voilà quoi. Bon, enfin, en découvrant cela, chacun va réagir de la manière qui lui plaît. Personnellement, moi, ça m'a fait comprendre dans quelle logique de truc les gens sont. Je vais directement aller à la conclusion pour dire ceci, c'est que le nom de famille, ça montre notre appartenance. Tu as le nom de ton papa parce que tu appartiens à ton père. De façon aussi simple que ça. Voilà, tu appartiens à ton père. Pas dans le sens où tu es sa propriété, il peut. Même là, tu es sa propriété. À une certaine époque, ton père, il pouvait te vendre, t'échanger contre tout ce qu'il veut et tout machin. Aujourd'hui, on ne le fait plus trop, mais quand même, ça reste dans la même veine. Donc, tu es la propriété de ton daron. C'est pour ça que tu prends son nom de famille. Et lorsque la femme quitte la maison de son papa, elle va vivre chez son homme, elle prend le nom de son époux parce qu'elle devient propriété de ce dernier. La femme La vie de la femme, c'est une vie de tutelle. Elle est sous la tutelle de son père, ensuite elle est sous la tutelle de son mari. C'est pour ça que lorsqu'une femme est célibataire, on trouve que c'est un problème parce qu'on se dit, mais qui se porte garant pour elle? Qui se porte garant pour elle? On considère que la femme ne peut pas s'autosuffire. Tu vois? On considère que la femme ne peut pas s'autosuffire. Donc, la femme, elle se marie pour avoir un garant, quelqu'un qui va garantir sa sécurité, quelqu'un qui va garantir son avenir, son bien-être et tout machin. Il faut qu'elle soit dans un foyer pour avoir ces choses-là. En dehors d'un foyer, la femme ne peut pas avoir ces choses-là. En tout cas, la société a été construite de sorte à ce qu'il n'y a que dans le foyer que la femme peut avoir ces choses-là. Et puisqu'aujourd'hui, la société devient de plus en plus, les femmes ont de plus en plus la possibilité de s'autosuffire, il y a véritablement un grand décalage qui se manifeste. Donc, le nom de famille, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas juste un nom, non, non. Il y a toute une vraie logique de domination mariale. Et là, maintenant, on va en arriver sur la domination. Chacun définit la soumission comme il veut, tout simplement parce que la soumission, c'est un concept creux. On peut mettre tout et n'importe quoi dedans. En fait, c'est le dominant qui décide de ce que doit être cette soumission-là. Ce n'est pas la personne soumise. Lorsqu'on dit à la femme, tu dois te soumettre à ton époux, d'accord? Qu'est-ce que la femme doit faire? Elle doit se soumettre. Ce n'est pas la femme qui décide de ce à quoi va servir sa soumission. Parce que si c'est toi qui décides, ce n'est plus de la soumission. Tu vois? Par exemple, tu es en couple avec un homme, tu dis, bon, lorsqu'il va s'agir du sexe, je serai soumise. Lorsqu'il va s'agir de faire la cuisine, je serai soumise. Mais c'est moi qui décide de la décoration de la maison. C'est moi qui décide de la télé qu'on va acheter. C'est moi qui décide du quartier où on va vivre. En réalité, ce n'est pas vraiment de la soumission, parce que la soumission, c'est en tout et pour tout. On n'a pas dit qu'il faut être soumise dans certains domaines et ne pas être soumise dans d'autres. La soumission, c'est une totalité. Et c'est la personne qui reçoit cette soumission-là qui décide de ce que cette personne-là doit faire de cette soumission. C'est pour cette raison que, par exemple, dans la Bible, il n'y a, en tout cas en ma connaissance, j'ai quand même assez beaucoup feuilleté ce livre-là, il n'y a pas d'aspect mis en exergue pour que la femme ait la possibilité de divorcer, d'échapper à son mari. C'est le mari qui peut répudier sa femme. On regarde même le mot, répudier sa femme. Dans certaines circonstances, il peut répudier sa femme. Parce que la femme étant soumise, elle ne peut pas demander le divorce, puisque demander le divorce, c'est une forme de rébellion. Mais tu es soumise, tu ne peux pas te rebeller. En fait, c'est ça, en fait. Genre, c'est un emprisonnement, pas à vie, mais bon, à vie, puisque bon, un emprisonnement, disons, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça le délire avec la soumission. Si tu tombes sur un homme qui est un homme, disons, gentil, tu es soumise à un homme qui est gentil, ben, auprès de lui, la soumission, ça va être quoi? Ça ne sera pas peut-être la même soumission qu'une femme qui va tomber sur un homme qui est très exigeant, un homme qui est violent. Voilà. Donc, c'est comme je disais, c'est la personne qui reçoit la soumission qui décide de ce que ce doit être. Et la personne dont il s'agit ici, c'est l'homme. Et là encore, on va encore toucher à un autre point. Le point crucial est celui qui permet aux hommes de commettre des abus de pouvoir. Parce que le problème, ce n'est pas véritablement qui a le pouvoir. Le problème, c'est l'abus de pouvoir exercé par la personne qui détient ce pouvoir-là. Et l'homme étant l'autorité, le fait de posséder le pouvoir, d'être le seul garant de ce pouvoir-là, eh bien, il ne peut être sanctionné par personne. C'est lui qui fait l'autorité, c'est lui qui établit les règles. Il ne peut être sanctionné par personne. L'homme ne peut écoper d'aucune sanction par rapport à son comportement vis-à-vis de son épouse. Lui, il peut sanctionner l'épouse, mais l'épouse ne peut pas le sanctionner lui. C'est pour cette raison qu'on demande aux femmes de tolérer l'infidélité plutôt. En Afrique, ici, on apprend aux femmes à tolérer l'infidélité. On apprend aux femmes à accepter le pire venant de leurs hommes. Parce que c'est pas comme si on donnait aux hommes la permission d'abuser de leur pouvoir. Mais au cas où ça arrive, la femme est obligée de supporter parce qu'elle ne peut pas le punir. Parce que c'est ça, en fait, la soumission. Ton mari te trompe, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien dire parce que tu es soumise à lui. C'est lui l'autorité. Lorsque l'autorité déconne, tout le monde est d'accord pour dire que l'infidélité, ce n'est pas bien. Taper, frapper sa femme, ce n'est pas bien. Violer, ce n'est pas bien. Mais je suis l'autorité. C'est moi qui établis les règles. Lorsque je viole les règles, lorsque je vais enfreindre les règles que moi-même j'ai établies, je peux être sanctionné par qui si ce n'est moi-même? Donc, dès cet instant-là, on se retrouve dans une situation de totale permission. Chacun, pas chacun, mais l'homme qui veut abuser du pouvoir, il en abuse, tout simplement, et on ne peut rien lui faire. Voilà. On ne peut rien lui faire. Parce qu'il est l'autorité. Voilà, c'est chaud. Et par rapport à ce que j'ai dit au début sur le fait que la femme ne peut pas s'autosuffire, on va peut-être essayer de me dire que oui, mais l'homme aussi, voilà, lui aussi, il a besoin de la femme. Dans la Bible, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, nanana. Mais en vrai, l'homme en vrai, il peut s'autosuffire, quoi. C'est-à-dire que dans la vie, en fait, de façon simple, hein, de façon simple, ce que la femme vient faire dans la vie de l'homme, en gros, c'est faire les choses que l'homme n'a pas le temps, l'envie, le besoin de faire. L'homme, il réalise toutes les grandes choses qui vont structurer le monde. Tu vois, dans la fable biblique, on a mis l'homme dans le jardin et c'est lui qui a nommé les animaux. Il a nommé les animaux, il a nommé les plantes, il a nommé toutes ces choses-là et ensuite, la femme est venue pour être une aide semblable, donc l'aider à finir le travail. Donc en gros, on peut prendre ça pour dire que l'homme, il accomplit toutes les grandes choses qu'il y a à accomplir. Historiquement, quand on voit, c'est l'homme, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci. Toutes les grandes découvertes, c'est toujours les hommes qui les font. Pas parce qu'il n'y a que eux qui peuvent le faire, mais parce qu'on a structuré les choses de sorte à ce qu'il n'y a que eux qui aient la possibilité de le faire. Et l'apport de la femme dans l'histoire de l'humanité, c'est un apport. La femme porte la vie, c'est très important, mais quand on tire le fil de l'histoire, on a l'impression que les femmes, elles n'apportent rien. Tu vois? Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que l'apport de la femme, c'est juste, elle est là à côté de l'homme pour l'enlever ses tracas et ses angoisses. Donc l'homme, il peut se suffire à lui-même. C'est juste lorsqu'il a besoin de, disons, les besoins physiologiques, voilà, élémentaires, quand c'est ça qu'il faut, là qu'il se tourne vers. Qui se tourne vers la femme. De façon simple, de façon simpliste. C'est un peu comme ça que je vais essayer de dire ça.
Là, je me rends compte que le patriarcat a créé un système qui est à la fois bénéfique aux hommes, mais aussi présente des inconvénients qui sont moins négligeables, comme la masculinité toxique. Et on a vu dans nos discussions comment ça impacte non seulement les hommes, mais aussi la femme et toute la société entière. Donc, pour conclure notre conversation, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la masculinité toxique? Des exemples concrets. Quel genre de conversation? Comment est-ce qu'on peut inciter les hommes, mais aussi les femmes, à être un peu plus ouverts sur ce sujet et à vraiment se questionner et questionner les autres aussi sur certains comportements qu'on a ou certaines attentes qu'on a qui sont vraiment liées à la masculinité toxique.
Moi, je pense que la façon la plus adéquate de lutter contre cela, de changer cela, c'est l'échange. Parce que déjà, toute cette société-là, elle s'est construite sur l'échange, sur la discussion. Aujourd'hui, il y a des gens, de nombreuses personnes, qui vont s'asseoir et qui vont affirmer l'homme, c'est le chef, l'homme, c'est le plus fort. Qui vont affirmer que les femmes ne sont pas intelligentes et tout, les femmes n'ont pas les capacités de faire X, de faire Y, mais qui sont incapables de démontrer cela de manière scientifique, qui sont incapables de démontrer cela avec des exemples scientifiques clairs, mais qui le pensent, qui croient en cela simplement parce qu'on a eu à le leur dire. Déjà, la première chose à faire, c'est de pas de créer une seconde tendance. C'est-à-dire, on a une première tendance qui est celle d'une vision unique, patriarcale, imposée aux gens, mais il ne faut pas aussi aller dans le sens où on va créer une seconde tendance d'une vision, peut-être appelons ça comme une vision matriarcale, ou bien une vision voilà, matriarcale, où on va juste inverser la tendance. C'est-à-dire, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul. Moi, je pense que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut faire en sorte que Pierre, Paul, Jean, Jacques, Claude, Philippe, tout le monde ait des vêtements. Et c'est à cela, en fait, qu'il faut réussir à aboutir, parce qu'il y a suffisamment de tissu pour vêtir tout le monde. Donc, il faut pouvoir déconstruire ces choses-là en montrant aux gens de quelle façon est-ce que ces choses-là se construisent. Voyez-vous? On montre aux gens de quelle façon ces choses-là se construisent. Comment est-ce que l'idée de supériorité, de domination de l'homme, comment est-ce que cette idée-là, elle se construit? On montre aux gens comment ça se construit. Et après, les gens peuvent décider d'en faire ce qu'ils veulent. Parce que pour ma part, le grand problème ici, c'est la souffrance que cela engendre. Si quelque chose ne fait pas souffrir une personne, si la personne ne souffre pas, est-il nécessaire, est-il utile de venir vers cette personne-là pour lui faire changer sa manière de penser, pour lui faire changer sa manière de voir les choses? Si elle n'est pas en souffrance, alors il n'y a pas véritablement d'utilité à venir lui imposer une façon de voir, une façon de faire. C'est pourquoi moi je m'adresse particulièrement aux personnes qui sont en souffrance, et ces personnes-là doivent comprendre que elles n'ont pas à souffrir, étant donné que bah, ce qui est la source de leur souffrance, c'est quelque chose qu'il suffit de simplement changer son logiciel de pensée pour sortir de cette souffrance. Ensuite, je pense qu'il faut. Je ne fais que dire, je pense. Ça permet même de rendre la chose personnelle et tout, et puis ça va devenir très facile à ne pas remettre en question. Mais disons qu'il faut, voilà, c'est le mot approprié, il faut taper sur la table par rapport aux violences et aux abus subis par les gens. Il faut taper sur la table par rapport à la souffrance que vivent les gens pour pouvoir entraîner un réel changement dans les actions et dans les pensées des gens. Parce que le fil conducteur de tout ça, c'est l'idée. L'idée qu'on se fait de ce qu'est l'homme, l'idée qu'on se fait de ce qu'est la femme, l'idée qu'on se fait de ce qu'on a, ce dont on a droit et ce dont on n'a pas droit. Et ici, l'idée autour de la masculinité est une idée assez noble dans l'ensemble, mais qui génère une toxicité nuisible à nous-mêmes hommes. Et il faut y remédier. De façon claire, il faut y remédier. Et c'est un peu une piste de solution que j'essaie d'apporter, celle de la réflexion. Réfléchir sur ces notions-là, réfléchir sur nos sociétés, réfléchir sur ces notions et réfléchir sur nos sociétés. Apprendre aux jeunes, aux vieux, aux plus grands, de quelle manière est-ce que ils et elles peuvent avancer vers certainement une société beaucoup plus, je dirais pas juste ou égalitaire, mais une société avec beaucoup moins de souffrance, si je peux dire ça comme ça. Ok, bah puisque j'ai assez beaucoup déblatéré, je vais essayer de condenser tout mon propos pour comprendre ça un peu plus compact. La solution à cela, c'est l'éducation. Une nouvelle forme d'éducation. Et c'est ça que l'on n'apporte pas. Beaucoup de choses ont changé. L'éducation masculine est restée la même. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Il faut modifier cette éducation masculine-là pour la rendre, non pas en faire un gros moule dans lequel on fait rentrer tous les hommes, mais plutôt adapter cette éducation-là aux particularités de chaque individu. Chaque individu masculin. De cette façon-là, l'homme n'est plus une grosse structure, un gros truc qui va nous faire du mal, mais plutôt l'homme est ce que nous voulons que l'homme soit. Si moi je veux que l'homme, c'est quelqu'un de tendre, bah, j'exerce ma tendresse. Et si l'autre veut que l'homme, c'est quelqu'un de dur, bah, il exerce sa dureté tant que l'on ne nuit pas à l'autre. Voilà, tant qu'on n'est pas nuisible pour l'autre, il faut travailler sur cette éducation-là. Et c'est certainement le travail que nous essayons de faire avec ce genre de discussion pour pouvoir aboutir à ce genre de solution.
Je partage ton avis. En effet, l'éducation masculine est vraiment une des meilleures solutions pour lutter contre la masculinité toxique. Les différentes caractéristiques qu'on utilise pour définir les hommes doivent vraiment être repensées et réévaluées. Et on doit permettre aux jeunes hommes, aux garçons, de grandir dans un environnement où ils ne sont pas restreints à être quelqu'un basé sur une liste de choses. Non. L'être humain, on a beaucoup de facultés, on peut faire tellement de choses, on ne devrait pas se limiter. Et je pense qu'en échangeant aussi beaucoup plus avec les hommes, surtout pour et les femmes aussi, ça nous permettra de comprendre comment les gens voient les choses et d'essayer de leur faire comprendre pourquoi on a besoin de changement. Et au final, chacun va faire sa décision, va prendre sa décision du moins. Et on espère que petit à petit, les choses vont changer. En tout cas, merci de m'avoir invité encore. Ne venez plus, mais je suis revenue. Et j'espère revenir. C'était un très très bon moment de conversation avec toi. Ça m'a permis de mieux comprendre la masculinité toxique et aussi d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure idée de comment les hommes voient les choses, surtout par ton expérience. Donc j'espère que nos auditeurs et nos auditrices ont apprécié autant que nous et on se dit à la prochaine. Au revoir.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains propos, si vous trouvez qu'il y a beaucoup trop d'incohérences, qu'il y a des choses qui ne vous ont pas plu, je vous invite à entrer en contact avec nous pour pouvoir échanger, faire encore un autre débat, une autre discussion, parce que tous les points de vue se valent et tous les points de vue ont le droit d'être mis en avant, puisque certains points de vue n'en sont pas, mais sont plutôt des délits. Et ça, c'est peut-être un autre débat. Et je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je vous le dis toujours, parce que personne d'autre que nous ne peut faire de ce monde ce que nous voulons qu'il soit. Alors, faisons-le nous-mêmes. Merci, c'était Ne venez plus, le podcast de la déconstruction. Ciao, ciao.